Le grand entretien. François Bunel.
Février 1944. Marceline Loridan-Evans a 15 ans lorsqu'elle est arrêtée, emprisonnée au Baumettes à Marseille, puis à Drancy, et enfin déportée en compagnie de son père vers Birkenau. Aujourd'hui, la vie quotidienne à Birkenau.
Le grand entretien sur France Inter.
Marceline Loridan-Evans, née Rosenberg ou Rosenberg.
Lorsque vous arrivez à Drancy, vous conservez un souvenir précis de cette arrivée à Drancy?
Ben oui, on est arrivé dans cette espèce de grande cour avec tous ces immeubles. Chaque étage était transformé en espèce de dortoir. Et on vous attribuait un coin, alors les gens séparaient avec des couvertures. Une partie de ce coin pour faire une sorte de chambre pour ceux qui avaient des couvertures. Les femmes étaient séparées des hommes. Moi, j'étais pas avec mon père. Mais on se voyait dans la cour. Mais vous savez, on a vécu des choses tellement terribles après que tout ça semble... C'était facile.
Mais c'était tout de même la police française qui gardait Drancy.
Ah oui, c'était la police française, bien sûr. C'est la police française aussi qui vous est grimpé à Bobigny dans les wagons à bestiaux. Mais bon, ben, on savait qu'il y avait une partie des Français, qu'il y avait des Français qui étaient pétinistes ou fascistes. Même à l'école, il y avait des filles fascistes.
Sur un des murs de la prison de Drancy, il y a une inscription, Marceline. Est-ce que c'est vous qui avez gravé votre prénom?
Ben, je ne sais pas. Je n'ai jamais été voir.
Elle existe, cette inscription.
Vous l'avez vue?
Elle est là, sur le mur, aujourd'hui encore.
C'est vrai?
Oui.
Est-ce que c'est moi? Il faudrait que j'aille voir, alors. C'est vrai.
Vous n'y êtes jamais retourné?
Non. Je suis allée juste devant, j'ai vu le wagon symbolique. Ben, il n'y a pas tellement de Marceline.
C'est dans le livre d'Annette Viviorca. Mais on peut retrouver l'endroit, très précisément,
ah oui,
sans doute, oui, j'imagine.
Elle le nomme,
oui,
parce qu'elle me connaît.
Eh bien, vous verrez.
Non, moi, je me souviens simplement d'avoir transmis des cigarettes à un type qui était en prison.
Où les aviez-vous trouvées, ces cigarettes?
Ben, chez mon père, parce que il y avait une espèce de plaque avec des trous. Vous savez, c'est une espèce de cour carrée comme ça. Et il y avait un endroit où c'était la prison. C'était la prison. Et moi, je passais là par hasard. Et dans la prison, il y avait sûrement... Voyant par les trous, il avait dû apercevoir quelque chose. Cet homme qui était dedans. Et il m'appelait « Rosenberg !» J'ai cherché partout. « Non, en bas, en bas !» Il dit « Va voir ton père et dis-lui qu'il me donne des cigarettes. » Donc, je suis allée chercher mon père. Il y avait des cigarettes contingentées. Et par les petits troncs en douce, j'ai filé des cigarettes.
Vous racontez, Marceline Loridan-Evans, cette journée de départ à Bobigny, ah, lorsque vous pénétrez dans le wagon qui va vous emmener vers Auschwitz,
oui,
vers Birkenau. Au moment du départ, votre père, qui tente manifestement de vous rassurer, de vous protéger, vous dit « Toi, tu reviendras, moi, je ne reviendrai pas ».
C'est moi qui lui dis « Mais t'inquiète pas, papa, peut-être qu'on va travailler dur, mais on se verra le dimanche. » Il me dit « Non, toi t'es jeune, peut-être tu reviendras, mais moi je sais que je ne reviendrai pas. » Il avait, oui, il avait cette intuition. Il savait.
Il savait.
Oui, nous on ne savait pas. Globalement, les gens ne savaient pas, n'avaient pas de détails. Mais il savait que c'était la mort, quoi.
Est-ce que c'est votre enfance, vous avez 15 ans à l'époque, qui vous protège contre ce genre de connaissances intuitives que pouvaient avoir les adultes?
L'inconscience, peut-être. Plutôt. L'incapacité d'imaginer que des hommes soient capables d'aller aussi loin. Mais il avait déjà vécu des pogroms, lui. Mais il ne savait pas qu'on retournait. Ça a dû être terrible pour lui quand le train s'est arrêté à Katowice. De découvrir à 20 km d'Auschwitz qu'on était en Pologne, ça a dû être terrible pour lui. C'est vraiment retour à l'envoyeur. C'est retour à l'envoyeur, hein, enfin à la France. Vous savez, j'ai toujours pensé que si j'avais été plus âgée, je ne serais pas revenue en France. J'étais trop jeune quand j'ai été libérée. Trop petite fille encore. Trop pleine d'expérience, mais quand même naïve, sachant pas se débrouiller dans la vie, n'imaginant pas qu'on peut partir comme ça, toute seule. Et puis je pensais que mon père reviendrait. C'est ça aussi, je suis revenue. Mais j'ai souvent pensé que il valait mieux que mon père revienne pour cette famille-là. Peut-être qu'elle n'aurait pas été détruite à ma place. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces deux suicides si mon père était revenu.
Celui de votre frère par la suite
et
celui de votre
frère soeur. Ma soeur aînée, oui.
Après-guerre.
Après la guerre, oui.
Pourquoi pensez-vous cela?
Parce que mon père, c'était la force de la famille. Je pense que ma mère était beaucoup plus fragile, plus faible, plus désemparée de se retrouver avec 5 enfants, ne sachant comment les élever, quoi en faire. Elle avait besoin, à côté d'elle, de quelqu'un de plus solide qu'elle pour prendre les décisions. Sans doute qu'elle n'avait pas pris beaucoup de décisions dans sa vie, même si elle travaillait avec mon père, je pense. J'ai été très intolérante avec ma mère par la suite. Enfin, je pensais qu'à m'en aller, d'ailleurs. Mais en même temps, je pense que c'est... Elle a fait ce qu'elle a pu. C'est tout.
Vous dites, Marceline Loridan-Evans, que si vous aviez été libérée à un autre âge, plus âgée, plus expérimentée, et non pas à 17 ans, sans doute auriez-vous choisi un autre pays? Vous ne seriez pas rentrée en France?
Oui, l'idée de revenir en France m'était très pénible.
Mais pourtant, vous l'avez fait. Est-ce que vous avez ressenti tout de même cette ambiguïté de choix au moment de rentrer, au moment de revenir? Et vers où seriez-vous partie?
Quand je me suis retrouvée à l'hôtel Lutetia, je ne voulais pas quitter l'hôtel Lutetia. Presque, ils m'ont mis de force dans le train pour retrouver ma mère. Et en 1947, je me suis engagée pour aller combattre en Israël. Mais ils m'ont pas pris parce que j'étais mineure. J'ai vraiment pas eu de bol. Donc il me restait plus qu'à me marier.
Je voudrais revenir à ce moment, donc 1944, après votre arrestation du 28 février, vous êtes emmené à Drancy, puis ensuite à Bobigny. De Bobigny, vous partez vers Auschwitz-Birkenau.
Oui.
Le voyage en train.
Oui, très pénible. On était entassés les uns sur les autres, on était 60 par wagon. On nous avait donné un sac de victuailles, du pain, des bricoles. Et puis tout le monde avait ses bagages. Donc il fallait s'entasser là-dedans. Il y avait des gens malades, il y avait des petits-enfants. Et en plus, il y avait une tinette. C'est un récipient très haut pour aller aux toilettes. Puis il n'y avait rien. Il y avait ça au milieu, près de la porte. 60 personnes. Vous pouvez imaginer comment ça sentait à l'intérieur, hein. Et puis on mourait de soif. C'était l'horreur. Moi, j'ai eu ce moment terrible, je me souviens bien, où j'ai reçu une paire de claques d'un garçon, parce que je disais à voix haute, j'ai soif. C'est noir dedans, c'est hallucinant. Vous avez qu'une toute petite, un petit grillage, à peine la lumière entre. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Il y a des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas. Comment c'est attribué, j'en sais rien. Est-ce que c'était par lettre alphabétique ou quoi? Ou on restait groupés ensemble de gens qui se connaissaient? Je ne sais même pas si Simone, elle était avec moi dans le même wagon.
Simone, c'est Simone Veil.
Oui.
Nous en reparlerons de votre amitié avec Simone Veil.
Oui.
Vous souvenez-vous du moment de l'arrivée, descente sur la rampe, moment où vous êtes les uns, les unes, les autres, triés et finalement séparés de votre père?
Oui, séparer les hommes des femmes tout de suite. L'arrivée, on est arrivé dans la nuit. Et puis on a commencé à percevoir l'aube. Le lieu où on est descendu n'est pas le lieu qu'on montre aujourd'hui, où les rails arrivent jusque devant les chambres à gaz, à l'intérieur du camp. On nous débarquait entre Auschwitz et Birkenau, en pleine campagne, dans une sorte de gare de triage. Vous voyez ? Par la suite, je comprendrai, parce que je connaîtrai mieux le camp, je comprendrai qu'on descendait à côté du bunker des pommes de terre. Et là, il fallait marcher à peu près. Anouk Aimée, dans mon film, prend le chemin. Il y avait à peu près 1,5 km à faire à pied. On ouvre les portes, on entend des cris, des chiens qui aboient, excités. Et on voit des commandos de gens habillés en vêtements rayés qui nous font descendre avec les SS tout le long du train, comme ça. Enfin, je sais pas, on était 1800 personnes, alors il y a 60 par wagon, vous voyez. Pour calculer le nombre de wagons, ça fait un sacré paquet de wagons. Hein. Et alors, on nous dit, les enfants et les vieillards, prenez les camions. On nous dit, les femmes et les hommes, en rang par 5. Et puis, il y a des cris, il y a des gens qui se font taper dessus parce qu'ils ne descendent pas assez vite. Les SS jouent la carte de la méchanceté la plus violente. On est mis en rang par 5 et puis on commence à nous inspecter du haut en bas, à nous faire ouvrir la bouche comme quand on examine les chevaux. Et puis on nous compte. Et puis un certain nombre, on prend des gens, on les rejette, on les remplace par quelqu'un d'autre. Et moi, à un moment donné, j'avais mal aux pieds, je voulais prendre le camion. Et je dis à Françoise, cette petite copine que j'ai connue à Drancy, je lui dis, je te retrouverai là-bas, je prends le camion. Et elle me tire de force pour que je reste avec elle. Et je peste contre elle pendant tout le moment où on marche à pied, en disant, t'exagères, t'aurais dû me laisser monter sur le camion, j'ai mal aux pieds. Et alors, là, il passe plusieurs fois devant moi, il m'ouvre la bouche plusieurs fois, il me regarde, j'ai 18 ans. On avait entendu, dites que vous avez 18 ans.
Donc vous mentez.
Donc on ment.
Oui.
Donc j'avais pas l'air d'avoir 18 ans. Hein. J'avais l'air d'une gamine. Mais enfin, bon, ça passe. Après avoir compté le nombre de gens. Parce qu'en fait, ils remplaçaient des forces nécessaires à l'intérieur du camp. Il y avait eu beaucoup de gazage, sans doute, et il leur fallait un contingent de femmes et d'hommes, et c'est sur cette base-là qu'on pouvait rentrer dans le camp.
Tout de suite, dès le premier jour, dès le moment que vous venez de raconter, où vous descendez des wagons, où vous faites à pied ou en camion, selon ce kilomètre qui vous sépare du lieu d'arrivée
de
ces baraquements, on vous dit ce qui se passe, et ça c'est très frappant, vous le racontez dans votre livre, on vous le dit comme une menace, comme une explication. Vous voyez les flammes là ? C'est le commando du ciel.
Oui.
Elles sont en train de brûler après être passées au gaz.
Oui, on n'arrive pas à les croire. C'est pas les Allemands qui disent ça. C'est des déportés plus vieux qui sont là depuis longtemps, qui ont déjà cette dureté que moi j'ai bien connue, hein, pour l'avoir vécu, en être devenu moi-même très dur. Oui, elles nous disent comme c'est un fait quotidien. Vous voyez, ils sont tous aux commandos du ciel. On n'arrive pas à le croire. On dit, mais comment c'est possible ? En gaz, les gens vivants. Et puis après, on vous met en rang. Et puis, on vous tatoue. Puis après, on vous enlève tous les vêtements. On vous rase les cheveux. On vous rase le pubis. des hommes. Les aisselles, on n'a jamais montré nos corps. On est des petites filles, j'ai jamais vu le corps de mes parents. C'est effrayant. Et puis cette masse de corps, c'était la première fois de ma vie que je voyais des corps nus. Alors il y avait toutes sortes de corps. Vous savez, quand on a 20 ans, c'est pas la même chose quand on a 50. C'est pas le même corps.
À 15 ans non plus.
Et à 15 ans non plus, parce que c'est une petite fille pubère, encore à peine. Voilà, et alors on se dit, mais dans quel domaine, où on est? Mais c'est une bande de fous ici, c'est pas possible. Et puis petit à petit, on comprend, et j'arrive pas à comprendre comment on accepte.
Vous n'arrivez pas à comprendre comment on accepte, aujourd'hui encore?
Oui.
Est-ce que vous avez vu, dans ces premiers jours, des femmes autour de vous qui acceptaient, d'autres qui refusaient d'accepter?
J'en ai vu qui pleuraient parce que leurs enfants étaient passés au crématoire. J'en ai vu qui pleuraient parce que leur mère, qui était avec elle, et moi j'étais folle de bonheur d'être toute seule. Je dis, au moins, moi je suis toute seule, alors je me débrouille toute seule.
Et je voyais presque bien. Rassurée d'être seule.
Ah oui.
Là où d'autres enfants âge auraient été angoissés, désespérés.
Ah non.
Vous vous sentez rassurée.
Ah oui, totalement, parce que j'ai pensé, si j'étais avec ma mère, ce serait l'horreur. Parce que qu'est-ce que je peux faire pour elle? Simone, c'est différent. Elle était là avec sa sœur et sa mère, mais ça. Tout tient aussi à la façon dont elle a vécu dans cette famille.
Très différente de la vôtre.
Mais bien sûr.
Nous y viendrons car vous la rencontrez un petit peu plus tard. Que vous faisait-on faire pendant la période dite de quarantaine?
Alors c'était vraiment des corvées. Par exemple, nous obliger à porter des briques en courant et aller les déposer 500 mètres plus loin pour les ramener après à l'endroit où on était. C'était des corvées d'humiliation. Ou porter des sacs de ciment, ou malheureusement se faire piquer pour aller nettoyer les toilettes. Enfin, les toilettes que vous connaissez de Birkenau, les trous. Alors voilà, on était prises comme ça pour des corvées d'humiliation.
Vous racontez, et pardon d'insister sur ce point, mais c'est un point qui souvent a été tabou chez les survivants, dans les récits de survivants. Vous racontez, vous, Marceline Loridan-Evans, et vous souhaitez le faire, ce qu'étaient réellement les conditions d'hygiène. Ces toilettes, par exemple, à quoi ressemblaient-elles?
Il y avait une série de trous sur une longueur de, je ne sais pas combien, de plusieurs dizaines de mètres, de part et d'autre, c'est-à-dire dos à dos, des trous où il fallait s'asseoir pour faire dans ces trous. Mais on n'avait rien, on n'avait même pas de papier. On n'avait pas de papier. On ne pouvait pas s'essuyer. Moi, moi qui avais honte d'avoir eu un caleçon long, kaki, sur moi, qui allait jusque par terre, j'étais folle de bonheur quelques jours après parce que je pouvais en déchirer un petit bout chaque jour pour m'essuyer. Se laver, impossible. On veut rentrer à 50 en même temps dans le lavabo. Lavabo, c'est un filet d'eau ferrugineuse. Interdiction à la boisson. Parce qu'elle est ferrugineuse. Donc, il restait l'eau de pluie ou l'eau qu'on vous donnait le matin, une eau marron. Et quand on arrive le premier jour, on ne nous donne pas une gamelle par personne. Avec une cuillère, on nous donne une gamelle pour 5 personnes, sans cuillère, en nous obligeant à boire l'une derrière l'autre la soupe. C'est inimaginable. C'est pour ça quand j'entends, par exemple, que sans Proun, il était bibliothécaire. Il n'y avait pas de bibliothécaire à Birkenau. En tout cas, pas pour les Juifs. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas dur pour eux. Ça veut pas dire, je ne veux pas amoindrir, mais les conditions d'humiliation étaient complètement différentes.
Oui, ce que vous avez vécu dans ce camp à Birkenau n'a rien à voir avec ce qu'ont pu vivre les déportés résistants,
voilà. En plus de ça, ils avaient une raison d'être
déportés. Et qui étaient à Buchenwald.
Oui, mais ils avaient une raison. C'était des combattants. Mais nous, on était quoi ? Juifs ? Qu'est-ce que ça veut dire, juifs ? Regardez, même aujourd'hui, c'est toujours les juifs qui y passent d'abord. Hein.
Dans quoi dormiez-vous ? À quoi ressemblaient les dortoirs, les lits ?
Il n'y avait pas de dortoir. C'était des koyas. C'est-à-dire des boxes d'1,90 m. Sur 1,90 m, des planches mal ajustées, avec 1, 2, 3 étages. Le meilleur, évidemment, c'était là-haut, parce qu'au moins, on pouvait se tenir debout. Parce qu'au milieu, vous aviez un espace où vous étiez toujours à moitié plié, assis, à moitié plié, sans pouvoir tenir votre tête droite. Et en bas, c'était complètement de la boue. Ou à peine bétonné. Donc il valait mieux être... Dormir en bas, c'était rare quand même, parce que c'était quand il y avait trop de monde. On ne savait plus que les chambres à gaz ne marchaient pas assez vite, ou ils n'avaient pas liquidé assez de gens de l'intérieur. Et ils avaient il y avait plus de gens qui arrivaient, qui passaient au crématoire, que ceux qui étaient encore dans le camp. Oui, on vivait, mais on était habillés comme des clochards. La robe rayée, c'était un symbole d'intégration.
D'intégration.
Ah oui. Moi, je rêvais d'avoir une robe rayée. Parce que sous une robe rayée, vous pouvez mettre n'importe quoi, même si elle est sale. Même si elle est sale. Et voilà. Elle cache. Tandis que là, une chaussure plate, une chaussure à talons, un caleçon long jusque par terre... Une espèce de jute trois fois trop grande pour vous, et même pas un bout de ficelle pour la tenir. On était vraiment réduit à un état de clocharde.
À quel moment avez-vous eu
une robe rayée ? Cette
robe rayée.
Beaucoup plus tard. J'ai eu une robe rayée quand j'ai travaillé dans une usine de fabrication de Junker, où je découpais des pièces à moteur.
Sortant de la quarantaine, vous avez été affecté au bloc 27B.
Oui.
Le bloc le plus proche de l'un des crématoires.
Oui.
Est-ce que c'est là, la première fois, que vous avez vu ?
C'était difficile de voir, mais on sentait. On sentait dans tout le camp. On le savait depuis longtemps, mais on n'a pas vu. Moi, j'ai jamais vu des gens rentrer dans la chambre à gaz.
Jamais ?
Non. Parce que c'était de l'autre côté. Tout se passait du côté de la forêt. Alors, c'était un peu masqué parce qu'il y avait des commandos de juifs qui étaient chargés de brûler les corps, de sortir les corps des chambres à gaz, de les transporter, de les mettre en paquet pour qu'ils brûlent plus vite.
Les Sonder commando.
Oui. On les apercevait, mais on ne voyait pas en détail.
Quelles étaient les rumeurs qui circulaient dans le camp ? Justement, sur la chambre à gaz, puis le crématoire.
Il n'y avait pas de rumeurs, c'était une certitude. Il n'y avait pas de rumeurs. Les rumeurs, c'était plutôt où en sont les Français, où en sont les Alliés, les nouvelles, si on pouvait avoir un peu de nouvelles, ou les nouveaux transports qui arrivaient, on essayait de se faufiler, de passer du Lager B au Lager de quarantaine, pour essayer d'avoir des nouvelles de la France, pour essayer de voir si parmi les gens qui arrivaient, il n'y avait pas votre famille aussi.
C'était la crainte, ça, de voir arriver les siens.
Ah oui, bien sûr. Absolument, oui. Bien sûr. Oui, d'aller surveiller. Mais en même temps, tout ça, on pouvait le faire pendant un certain temps. Tant qu'on avait une certaine lucidité, tant qu'on n'était pas encore complètement pris par cette folie de la faim, du froid, ou de la soif, ou de la maigreur. Parce qu'il arrive un moment où tu reconnais... Tu essaies de penser au visage de ta mère, tu le vois plus. Tu essaies de penser comment il s'appelait mon petit frère, tu sais plus. Tu oublies. Tu es dans un instant immédiat de manger, de... Tu deviens comme, oui, voilà, un animal qui a faim.
Au bout de combien de temps se trouve-t-on pris dans cette situation?
5 semaines.
Si rapidement?
Ah ouais. 5 semaines, 6 semaines maximum. Puisqu'on nous donnait 3 mois de vie, hein. Ou 6 mois, dans le pire.
Vous racontez dans votre livre que là où beaucoup ont voulu pointer les élans de solidarité dans les camps, il faut dire qu'ils ont existé, mais dire aussi que l'inverse a été vrai.
C'était d'une violence, le camp était violent. Tout le monde était violent.
Vous voulez dire les détenus?
Bien sûr.
Entre elles?
Bien sûr. Sauf celle que tu connaissais, ta copine, puisqu'on vivait en couple. Vous savez ça?
Comment cela, en couple?
Eh ben, on vivait par deux. On partageait le pain à deux. Sans idée sexuelle, voyez. Ne pensez pas à ces choses-là. Parce qu'on pensait d'ailleurs qu'on avait tout qu'il y avait du bromure dans tous les aliments. Est-ce que c'est vrai ou pas, ou est-ce que c'était une rumeur? Je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, pour moi, c'était un monde inconnu. C'était encore l'étape, si on peut dire, des pulsions plutôt qu'autre chose de l'adolescence, mais qui n'avait plus lieu d'être depuis que j'avais été arrêtée. Oui, plutôt des pulsions comme ça. Peut-être qu'il y avait des gens, des adultes, qui avaient des tendances homosexuelles. Ça, j'ai rencontré une homosexuelle. Mais on disait qu'elle était homosexuelle. Elle était voyante et homosexuelle. Mais j'ai jamais eu de relation particulière. Est-ce qu'il y avait... Je pense qu'il arrivait à un moment donné où l'épuisement était tellement grand. On travaillait quand même 12 heures par jour. Il fallait parfois marcher des kilomètres pour aller au travail et revenir et avoir 3/4 de litre de soupe par jour et une petite ration une fois par semaine de margarine. Et comme je vous ai dit déjà, peut-être une cuillère à café de confiture de betterave. On n'avait rien, mais il y avait tout. Parce que les transports arrivaient avec beaucoup de choses, beaucoup de nourriture, beaucoup de vêtements, beaucoup de choses qui étaient à destination de l'Allemagne. Vous voyez, moi j'ai travaillé, j'ai eu de la chance, j'ai travaillé dans ce commando qu'on appelle le Canada. Le Canada. Pour moi, ça, j'avais toujours trouvé que c'était bizarre qu'on appelait ça Canada. Si ça avait été un camp en France... Le camp de triage des vêtements, nous, on ne l'aurait jamais appelé Canada. On l'aurait appelé Pérou. Hein. Le Pérou des rêves de l'avant-guerre. Le Pérou, c'est là où il y a de l'or, de l'argent, tout ça. À mon avis, c'est les Polonaises qui ont appelé ça Canada. Et puis, c'est resté pour elles. Le Canada, ça devait être le miracle de partir là-bas, au Canada. Des triages de vêtements. Et dans les triages de vêtements, oui. Oui, une fois, j'ai trouvé une pièce d'or.
Quel était le travail que vous deviez faire dans ce
commando? Il fallait trier les vêtements pour les envoyer en Allemagne. Tout est parti en Allemagne, donc ma robe de chambre blanche, elle est partie en Allemagne. Surtout, elle était tellement belle. Je crois que j'en ai jamais eu une aussi belle. Aussi peu de temps, aussi belle.
Beaucoup racontent que l'un des endroits dont on se méfiait était l'infirmerie.
Ah oui.
Que signifiait... pour vous, aller à l'infirmerie?
J'y suis jamais allée tellement j'étais terrorisée, parce que c'était là où on faisait en permanence des sélections pour les gaz. Parce que si vous tombiez malade, si vous aviez le typhus, vous étiez bon pour les gaz. Mais en même temps, c'était un lieu où peut-être il y avait quelques médicaments, je ne sais pas. Moi, j'ai eu des grandes crises de fièvre, genre paludisme. Mais je n'ai pas voulu aller à l'infirmerie, tellement j'avais peur. Ça s'appelle le Revier. Revier, en allemand, c'est hôpital. Enfin, c'était une baraque où les gens pouvaient rester là sans aller travailler parce qu'ils étaient malades. Il y avait des infirmières, des médecins. Enfin, des médecins qui ne pouvaient pas soigner grand-chose, quoi. Mais parce que, vous savez, le typhus, il s'en fout que la personne soit allemande ou pas allemande. Il y a eu beaucoup, dans les épidémies de typhus dans les camps, il y a beaucoup d'Allemands qui sont morts aussi du typhus parce qu'ils l'ont attrapé des déportés. Donc, il y avait des conditions sanitaires à l'intérieur du camp draconiennes. Vraiment. D'ailleurs, c'était marqué partout, un pouce et la mort. Si vous allez à Birkenau encore aujourd'hui, il y a des blocs où c'est marqué un pouce et la mort. On en avait des poux. Hein. Moins qu'à Bergen-Belsen, parce que là, les poux se sont développés à une rapidité incroyable. Parce que les conditions étaient pires.
Quelques mois plus tard, quand vous serez transféré dans le camp de Bergen-Belsen.
Oui, bien sûr. Alors, le Revier, pour moi, j'ai toujours eu peur d'y aller. Et je raconte d'ailleurs dans mon livre l'histoire d'une amie qui était avec sa sœur, qui chantait bien. Elle avait une très belle voix. Les SS avaient déjà relevé les numéros dans tout le bloc. Et elle a commencé à chanter. Et cette salope de chef de bloc qui vient lui dire « Ah, t'aurais chanté avant ?» J'aurais pu t'éviter la chambre à gaz, quoi.
Oui, c'est ce qu'elle lui dit.
Oui, c'est ce qu'elle lui dit.
Et elle l'a envoyée à la chambre à gaz.
Non, elle est revenue parce que le 11 novembre 1944, Himmler a suspendu le crématoire. Parce que les avions américains, les avions anglais commençaient à arriver au-dessus de la Pologne. Et que c'était pour eux la crainte que ce soit un repère pour les bombardements. Parce qu'on a été bombardés à Auschwitz, mais pas le camp, une usine d'armement. Mais ils n'ont pas bombardé le camp, les Anglais.
Plus tard, est-ce que vous en avez voulu, justement, aux Alliés, aux Anglais, de n'avoir pas bombardé Auschwitz, de n'avoir bombardé que la partie d'usine d'armement ?
Je ne peux pas le dire comme ça, parce que j'étais tellement heureuse des bombardements anglais que j'ai subis par la suite. Non, je ne peux pas le dire comme ça. Non. Mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il y a parfois des bombardements dont les gens sont très contents, alors qu'ici, c'est mal interprété. En France, on interprète mal certains bombardements qui ont pu avoir lieu ailleurs, qui était salvateur.
Vous parliez des SS et des femmes SS. Là encore, c'est une chose mal connue et qui reste un peu tabou. Mais vous étiez donc dans le camp des femmes à Birkenau.
Oui.
Gardée par des femmes.
Gardée, pas directement par les SS. Contrôlée par les SS. Mais gardée par des femmes qui étaient chefs de bloc, capot, sous-capot... Sous-capot, voilà.
Il n'y avait que des femmes ?
Non, elles étaient encadrées par des hommes pour les travaux, par exemple, de fabrication de routes ou de choses comme ça. Mais c'était des femmes qui nous gardaient. Et c'était là, principalement des Polonaises et des Ukrainiennes. J'ai jamais vu de capot juive.
Jamais ?
Non. Il paraît qu'il y en avait dans les camps des hommes. Capot juive, j'en ai jamais vu. J'ai vu des chefs de bloc. Moi, j'ai eu une chef de bloc juive, bien sûr, mais pas capot.
Était-il possible de s'entendre avec une chef de bloc juive ?
Non, pas plus qu'avec les autres.
Pourquoi ?
Parce que c'était une vraie salope, parce qu'elle vous battait à mort, parce qu'il fallait que l'ordre soit respecté, et elle était prête à tout pour ça. Pas mieux, ni mieux ni pire, pareil.
Vous évoquez...
C'est pas parce qu'on est juif qu'on est des anges. Hein. Chez les juifs, il y a des bonnes gens, il y a des mauvais gens. Israël, c'est un pays normal. On oublie pourquoi Israël lui demanderait ce que les autres ne sont incapables de faire.
Mais dans des conditions si extrêmes, on pourrait penser qu'une certaine solidarité, à la fois de confession, mais aussi de conditions, permettrait de conditions
pénitentiaires, mais ça dépend de la personne que vous avez en face de vous. Tout le monde n'est pas... Non, c'est pas comme ça la vie. Non, ce serait trop beau.
Vous avez évoqué tout à l'heure les chanteuses. Vous racontez dans votre livre la jalousie qui peu à peu s'empare de vous, jeune fille. Oui. Encore une fois, 15 ans et demi. Lorsque vous voyez que celles qui savent chanter, celles qui savent jouer, qui peuvent devenir musiciennes, ont un traitement de faveur, un traitement à part. D'abord, quel était-il ce traitement de faveur?
Je pense d'abord qu'elles n'étaient pas obligées de travailler. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas obligées de supporter les intempéries de toutes sortes. Elles étaient dans un bloc. Quand il faisait moins 20, c'était dur. Hein. Et surtout, elles mangeaient peut-être pas mieux, mais un peu plus. Elles avaient des privilèges, quoi. Et surtout, elles jouaient pour nous faire défiler au travail. Donc, c'était quand même rude d'écouter Mozart en défilant. Hein. Il m'a fallu beaucoup de temps à réécouter de la musique classique, moi.
Elle jouait Mozart pendant que vous travailliez dans le camp.
Oui, voilà. Non, quand on défilait pour aller travailler, elle jouait des marches militaires, elle jouait aussi des morceaux classiques, Beethoven, tout, bien sûr.
Le grand entretien de François Bunel sur France Inter.
Dans le camp d'Auschwitz et de Birkenau, il y avait un bloc qu'on a appelé le bloc des expériences, qui a été dirigé par Mengele.
Oui.
Saviez-vous ce qui se passait dans le bloc des expériences?
Je ne savais pas ce qui se passait dans le bloc des expériences, mais je savais la terreur que j'ai vécue quand j'ai cru qu'on allait me choisir pour y aller. Ben, j'ai été choisie en même temps qu'une fille qui s'appelait Hélène, qui était française, de Colmar. On nous a fait sortir du rang pendant qu'on était à l'appel avec Mengele, des gens qui étaient venus choisir des personnes dont ils avaient besoin pour des expériences. Et puis moi, on m'a remis dans le rang et elle, on l'a emmenée. pas moi. Mais on savait aussi qu'il y avait des tzfilings, c'est-à-dire des jumeaux, qu'ils avaient gardé des jumeaux à titre exceptionnel pour faire des expériences sur les jumeaux. Ça, c'était les rumeurs du camp.
La vie quotidienne à Birkenau, vous la racontez, qu'il existait une sorte de bourse du marché noir.
Ah oui, il y avait une bourse, oui, il y avait un marché. Par exemple, une cuillère, ça valait une ration de pain. Vous pouviez échanger de l'aspirine contre du pain, un cachet ou de la quinine parce qu'il y avait beaucoup de fièvre. Mais c'était pas facile à trouver, mais on pouvait. Donc il y avait une certaine bourse, oui, bien sûr. Il y avait une bourse d'échange où on allait après l'appel. Et tout d'un coup, les Allemands arrivaient, arrêtaient tout le monde, reprenaient tout ce que les gens essayaient d'échanger, et puis c'était terminé, mais ça existait.
Les Allemands savaient, bien sûr, que cette bourse existait et jouaient avec vous.
Oui.
En quelque sorte.
Pas vraiment, on ne peut pas dire de façon générale, mais... régulière, mais ils pouvaient tout d'un coup un SS arrivait ou deux trois types et ils nous tapaient dessus en disant allez retournez dans vos blocs ou des choses comme ça, mais c'était pas un jeu pervers systématique. Il y a eu des jeux pervers systématiques sans doute, mais pas vraiment. J'ai pas vu vraiment moi. Moi par exemple, j'étais victime d'une femme, d'une Allemande qui s'appelait d'ailleurs, je me souviens très bien de son nom. J'ai eu du mal à le retrouver. Elle s'appelait Sally. Elle était sous-chef de sous-capot. Et elle m'aimait bien. Ça veut dire qu'elle me foutait des baffes. Oh, jolie petite pan-pan. Ouais, elle jouait comme ça avec moi. Et je me souviens la fête qu'elle a fait pendant qu'on était au travail, à côté de nous, parce qu'elle était libérée. Elle avait fait ses 20 ans de bagne. Elle avait tué un enfant. Elle avait été libérée parce qu'elle avait fini sa peine. Il y avait des femmes qui étaient libérées quand même de ce camp. Les détenus de droit commun. Qui avaient tous des postes importants dans le camp, oui.
Oui, c'est chez les détenus de droit commun que l'on choisissait, oui. Les capots.
Oh, pas quoi, chez les résistants aussi. Il y avait les triangles verts et les triangles rouges. Les triangles verts, c'était les droits communs. Les triangles rouges, c'était les résistants. Ah non, la plupart, c'était les triangles rouges. Mais il y avait les deux. Les plus pervers, c'était souvent les triangles verts ou les triangles noirs, les grands criminels. On avait tous des triangles. On était tous désignés. Moi, je serais le triangle jaune. J'étais juif.
Vous connaissiez l'histoire et le passé des femmes qui se trouvaient avec vous et que vous pouviez identifier à peu près au triangle qu'elles arboraient?
Pas toujours, non. Je ne connaissais pas. On s'acceptait comme... tout d'un coup, on partageait le pain avec une fille dont on ne savait rien. Parce qu'on dormait l'une à côté de l'autre, ou parce qu'on était tout le temps au travail l'une à côté de l'autre. C'était simple comme ça. Mais il y a eu une femme austéraire. Elle était chef à Marseille. Elle était chef de chambrée à Marseille. Aux Grandes Baumettes à Marseille, quand j'étais là, une très grande femme autrichienne. Elle disait qu'elle n'était pas juive. Elle était méchante, elle était très dure avec toutes les prisonnières. Elle dirigeait la chambre. Je ne sais pas, il y avait peut-être 40 ou 50 personnes dans ce dortoir. Et moi, je l'ai retrouvée à Auschwitz. Soi-disant qu'elle n'était pas juive, mais elle avait été déportée quand même à Auschwitz. Je l'ai retrouvée à Bergen-Belsen, mais j'avais peur d'elle. Elle voulait me faire rentrer à l'infirmerie du Revier de Bergen-Belsen, qui n'était pas dangereux, parce qu'il n'y avait plus de chambre à gaz. Hein. À Bergen-Belsen, c'était pour nous la délivrance.
Quand vous êtes arrivé en novembre, pour nous, 44.
Ça a été le paradis quand on est arrivé à Belsen. On savait qu'on ne passerait plus au gaz. On pourrait mourir. Mais pas par les gaz, parce qu'il n'y avait pas de chambre à gaz.
Mais ça veut dire que tous ces mois, entre mars et novembre 1944...
Oui, décembre, oui. On a vécu dans la terreur de la chambre à gaz.
Tous les jours.
Ah bah ouais.
Terreur consciente.
Ah bah oui. Parce que vous étiez à la merci de n'importe qui.
Quels étaient les petits gestes, les risques qui pouvaient vous précipiter du côté de la chambre à gaz et qu'il fallait éviter?
D'abord, les sélections. quand il y avait une sélection groupe générale dans le camp. Ensuite, si on était blessé, si par exemple on avait des infections sur le corps, on risquait la chambre à gaz, plus que d'autres. Si le corps était délabré, parce que vous aviez perdu 30 kilos et que votre ventre tombait, ou que vos seins tombaient, tout ça, alors là, vous risquez la chambre à gaz aussi. Donc c'était important d'essayer de rester, quand on passait devant la sélection, de cacher les endroits où vous étiez enflé, où vous aviez des plaies.
Quand avait-elle lieu la sélection ?
Oh, bah, c'était au hasard. On n'avait pas de... Tout d'un coup, voilà quoi. Mais la dernière sélection, moi, je l'ai passée avec Mengele. Et là, j'ai vraiment peur. Hein. Parce que j'avais des énormes plaies aux jambes. Et comme on était à moitié nus, mais qu'on avait gardé nos vêtements, moi, j'essayais de cacher. Quand je tournais, mais ils me faisaient tourner à droite, à gauche, quoi. Parce qu'ils vous faisaient tourner. Ou ils tournaient autour de vous. Et puis, ils se passaient les joues pour avoir l'air d'être rouge. Ouais, c'était un vrai fumier, celui-là.
Vous racontez la grande violence qui régnait dans ce camp, mais vous racontez aussi, parfois, les gestes de solidarité.
Oui.
Donc, il y en avait.
Ben oui, bien sûr. Mais, par exemple, moi, je ne voulais pas aller au Révire. Et j'étais avec un groupe de Françaises qui voulaient que j'y aille. Et j'ai dit non, je n'irai jamais au Révire. C'est l'avant-poste de la chambre à gaz. Ben, elles avaient trouvé à un moment donné où on creusait des tranchées pour les routes, pour l'élaboration des routes. Elles avaient trouvé un trou, elles avaient trouvé une planche, elles avaient réussi à récupérer une planche. Et puis je me cachais sous cette planche pour me reposer. Ou alors un jour ou une fois, j'étais tombée à l'intérieur du camp et que j'avais plus la force de me relever. Il y a une main qui s'est tendue et qui m'a relevée. Je ne sais pas qui, je n'ai jamais su qui. Ou alors, pour que je ne sois pas au premier rang, par exemple, prenez deux tuiles, des briques, pour que je paraisse plus grande, pour que quelqu'un puisse me soutenir dans le dos, pour que je ne tombe pas par terre. Oui, il y avait des choses comme ça quand même. Ou alors avec Françoise, elle aurait pu manger mon pain quand j'étais si malade. Eh ben, elle essayait d'échanger mon pain contre de la quinine, à la fameuse bourse aux échanges. Oui, il y avait beaucoup. Voilà, il y avait des choses comme ça, oui.
Vous racontez dans votre livre qu'il y avait aussi des moments de répit, des moments où vous sentiez aimé.
Oui, mais ça, c'est parce que on était toutes pareilles. Et l'amour qu'on pouvait donner, c'était le vrai. Personne ne pouvait y échapper ou personne ne pouvait en réchapper de la même manière. Dans un commando, par exemple. Donc, il y avait une solidarité quand même. Du fait qu'on était pareil. Je pense, quand je dis que j'étais le plus aimé là-bas, il y avait cette égalité, une sorte d'égalité qui faisait qu'on était pareil. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer ce qui n'existe jamais dans la vie.
Que vous n'avez jamais retrouvé après ?
Aussi désintéressé, jamais.
C'est ça aussi l'unicité,
oui,
de cette histoire.
Absolument, c'est vrai.
Une humanité, diriez-vous, malgré tout, vous étiez au cœur de l'inhumain.
Il nous restait quand même quelque chose.
Comment l'appelleriez-vous, cette chose ?
L'âme, peut-être. Moi, je dirais l'âme. Après, c'était différent. Même les amis qu'on a retrouvés, c'était pas pareil. Une fille que j'adorais, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée au camp, au point de la chercher pour lui donner à manger, parce que j'en avais eu plus. Mais la vie nous a séparés après. Parce que là-bas, il n'y avait pas d'enjeu. C'est ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça, c'est... C'est impossible à retrouver après. Même dans les grandes histoires d'amour.
Demain, suite de l'émission avec Marceline Loridan-Evans. Une émission préparée par Grégoire Louis, Vanina Scalia, Marine Beccarelli, Sandrine Laurent et Nicolas Lapeyre à la technique, réalisée par Anne Kobilac.
Merci François Bunel, c'était une rediffusion d'un grand entretien du 17 avril 2012.